doit avoir un nom. Comment appelez-vous quelqu'un qui met l'argent, le pognon, les gros sous avant la vie des gens? Quelqu'un qui est prêt à tout froidement pour trois ronds. Ça doit avoir un nom.
Nous sommes sur
Radio Libertaire.
Mais moi un shot de bon mot à la santé de mes lascars. Mojito cubano se rafraîchit la mémoire. La lucha, notre histoire, on se remémore les victoires. On déboulonne les statues des colons franchouillards. Les Colbert et Combert au goulag au mitard. J'ai le cœur qui palpite quand tu me parles de révolution. C'est terrible, je suis sensible que de l'amour dans mes chansons. On pleura et ta poêle comme Madame Massiro. Invasion de prolo, les bourgeois sont quichots. Sont fâchés, sont fichés, les islamos, les gauchos. Y'a trop de seum et trop de faf à la table de Pascal Pro. Les débats sont piégés, la télé, fachosphère. T'es lynché sur Twitter si t'as pas la peau claire. Sont les mots qui nous accusent, sont les mots pour nous faire taire. Mais nous on a Malcolm, Franz Fanon et M. Césaire. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on sera pas demi-tour. On a que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on fera pas demi-tour. On a que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour.
Un genou sur la gorge, non tu peux pas respirer. Non tu peux pas t'échapper, non tu peux pas te libérer. Non tu peux pas adhérer, non tu peux pas les aimer. Que détester tous ceux qui veulent t'oppresser. Le pays des droits de l'homme, j'y crois pas, ça t'étonne. Des fachos qui ratonnent, des grenades qui débordent. Y'a tout le monde qui s'en cogne, c'est chacun pour sa trogne. Chacun son iPhone, son petit colis Amazon. Je préviens la famille, faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai de l'amour pour les nôtres et pas pour les lâches, les vendus. J'suis têtu, j'suis sectaire, quand j'aime c'est que ma tribu. Si t'es pas trop faillot, trop gilfra, t'es bienvenu. J'balance des parpaings, des refrains, des câlins, mon prénom de Sarrazin, le cauchemar zémorien dans ce patelin. Trop cistra, trop chauvin, trop pétain. On veut plus de Jean Moulin et beaucoup moins de Darmanin. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on fera pas demi-tour. On a que du love, que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on fera pas demi-tour. On a que du love, que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour.
Toujours sur Radio Libertaire, sans publicité, ni Dieu, ni maître, 89.4. Nous allons continuer l'émission comme tous les jeudis avec Sivi Passem, l'émission antimilitariste de l'Union pacifiste de France, avec Bernard Bessa.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnes, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une historienne qui s'appelle Laurence de Kock. Laurence de Kock est professeure agrégée d'histoire, docteur en sciences de l'éducation. Elle est également chargée de cours en enseignement de l'histoire et de sociologie à l'Université Paris Diderot. Et ses recherches, bien sûr, en sciences sociales portent essentiellement sur l'enseignement de l'histoire. Alors j'ai eu la chance de l'entendre dans une réunion des opposants au Service National Universel, le SNU, qui s'est tenue à Paris au CICP, c'est-à-dire le Centre International de Culture Populaire, le dimanche 16 avril 2023. Les syndicalistes qui avaient organisé la rencontre avaient choisi de diffuser une vidéo de l'Union pacifiste qui a pour titre, que vous connaissez bien, qu'on trouve sur YouTube, SNU, embrigadement des jeunes. Puis, les organisatrices ont donné la parole aux spectatrices et aux spectateurs présents. Laurence de Kock a fait une intervention remarquable au sujet du service national universel. Et je regrette bien sûr de n'avoir pas eu la chance de l'enregistrer. Je n'avais pas mon matériel. Laurence de Kock a publié ensuite dans la revue Regard un article qui reprenait les points essentiels de son exposé. Alors, je vais vous donner lecture de ce texte qui me semble très intéressant. Laurence de Kock écrit « L'école de la République a toujours entretenu un lien ambigu avec la guerre. Les lois Ferry de 1881-1882 avaient entre autres finalité celle de former des petits Français soudés par un sentiment national, patriotique et revanchard dans la foulée de la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine cédée à la Prusse victorieuse de la guerre de 1870. Pendant 10 ans, dans le cadre de « entre guillemets bataillons scolaires », les enfants furent initiés au maniement des armes et aux stratégies militaires. Puis tout cela est rapidement tombé à l'eau. La boucherie de la Première Guerre mondiale a plutôt comme conséquence de desserrer le lien entre l'école et la guerre. Ne valait-il pas mieux sensibiliser les enfants à la paix ? Se demande justement Laurence de Kock. Dès lors s'instaure un tiraillement à l'intérieur de l'institution. Si les valeurs guerrières et militaristes ne disparaissent pas totalement, entre parenthèses, discipline sévère, hommage aux morts, commémoration des guerres et valorisation du virilisme guerrier, donc si ces valeurs guerrières ne disparaissent pas totalement, elles sont fortement concurrencées par l'invitation à éduquer à la paix, portée notamment par la Société des Nations Unies, et le mouvement d'éducation nouvelle. Alors, dans le mouvement d'éducation nouvelle, il y a bien sûr des personnalités très connues comme Montessori, Freinet, Ferrière, De Croly, Et bien sûr, ça continue, il y en a encore plusieurs qu'on pourrait citer. Alors, Laurence Lecoq continue. Après la Seconde Guerre mondiale et la prise de conscience du sommet de la barbarie, le vivre ensemble devient le paradigme dominant de l'école. Les conséquences sociales y sont travaillées au même titre que les connaissances, telles que la solidarité et la fraternité, doivent s'éprouver concrètement, d'où l'énorme travail fait sur l'éducation civique et l'enseignement des valeurs de la République. L'école est alors perçue comme un petit laboratoire social, l'antichambre de la société de demain, une société pacifiée. On n'y critique toujours pas la guerre, mais on la tient éloignée, à l'extérieur des murs. Même les chantiers de jeunesse du régime de Vichy ne sont pas une expérience scolaire. Le modèle est celui de l'externalisation de la formation militaire de la jeunesse par le truchement, notamment, du service militaire. Alors, on croyait, nous, que les chantiers de jeunesse faisaient partie de l'expérience scolaire. Grâce à Laurence Lecoq, nous apprenons que non. Sous le titre « Le SNU ou la militarisation de l'école », Laurence Lecoq écrit « Les récents débats autour de l'obligation du service national universel, le SNU, nous amènent à réinterroger cette division du travail et particulièrement la possibilité qu'il ait lieu sur le temps scolaire, comme cela semble le souhaiter Sarah El Haïry, ministre chargée de sa mise en place, sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de celui des armées. » Alors là, il faut toujours le rappeler, ministère de l'Éducation nationale et celui des armées. Tout cela ne tombe pas du ciel. L'invitation à éduquer à la paix, portée notamment par la Société des Nations et le mouvement d'éducation nouvelle, alors on rappelle encore les noms, Montessori, Freinet, Ferrière, De Croly, sans s'en cacher, Sarah El Haïry cherche à recruter et vante régulièrement auprès des collégiens et des lycéens les mérites de la carrière militaire. Aux côtés de l'enseignement moral et civique, mot donné d'ailleurs à l'éducation civique en 2015, l'éducation à la défense participe au parcours citoyen dans l'école, un projet quelque peu fumeux et très peu appliqué, comme l'école a l'habitude d'en voir se multiplier. Alors depuis, bien sûr, ce qu'il faut dire, c'est que depuis cette date, nous avons eu maintenant la confirmation que ce SNU sera pris sur le temps scolaire, que ce seront 12 jours, faits dans le cadre des classes d'engagement, et qu'à ce moment-là, il y aura bien sûr un autre dispositif que nous allons décrire dans une autre émission. Alors toujours dans le même article, publié dans la revue Regard, Laurence Lecoq écrit « Le SNU s'intègre dans le projet plus large d'une école au garde-à-vous, qui assume de préparer les enfants à la guerre et qui instrumentalise les valeurs de la République au service d'une vision autoritaire où la seule liberté est celle de l'obéissance. » Mais depuis 2015 et les attentats terroristes islamistes en France, la focale a à nouveau été mise sur cet enseignement civique et cette éducation à la défense que le gouvernement charge de régler tous les problèmes d'une supposée non-adhésion aux valeurs de la République. Dès lors, le paradigme « vivre ensemble » prend une autre tournure. Les exercices dits « attentats-intrusion » se transforment dans certaines écoles au moment très anxiogène pour les enfants, parfois très jeunes. La guerre contre le terrorisme s'invite dans les écoles. La stigmatisation des enfants musulmans et de leurs familles participe à la construction d'un ennemi intérieur, jusque dans les écoles, comme en témoignent les quelques enfants envoyés directement dans les commissariats pour des propos malheureux. Alors effectivement, on se souvient que quand on a obligé les enseignants à faire par exemple des minutes de silence dans les classes, il y a eu parfois des remarques de certains élèves. Alors, Laurence Lecoq continue, les partenariats avec la police se multiplient et des ateliers s'organisent surtout dans les quartiers populaires, officiellement pour, entre guillemets, réconcilier la police et la jeunesse, en les sensibilisant à des gestes tels que le menottage, la manipulation des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, ou l'intervention musclée. plus que la guerre, c'est donc l'univers viriliste, policier et brutal qui se diffuse de plus en plus dans les écoles. Alors là, nous sommes bien sûr tout à fait d'accord avec Laurence de Kock. Et elle continue. C'est pourquoi il faut prendre très au sérieux cette histoire du SNU. Alors là, nous sommes tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de 15 jours hors sol d'une colonie un peu musclée offerte aux jeunes. Le SNU s'intègre dans le projet plus large d'une école au garde-à-vous qui assume de préparer les enfants à la guerre et qui instrumentalise les valeurs de la République au service d'une vision autoritaire où la seule liberté est celle de l'obéissance. On se souvient par exemple qu'à l'issue d'une rencontre avec des jeunes en 2020, Sarah El Haïry, trouvant odieux leur rapport aux valeurs de la République parce que les jeunes avaient eu l'outrecuidance de poser des questions qui fâchaient, Sarah El Haïry avait diligenté FISA une enquête sur ses élèves. Alors, Laurence de Kock, sous un autre chapitre qui s'appelle « Et maintenant ?» Que faire donc ?« Et maintenant ?» Il faut non seulement refuser le SNU en bloc, alors là on est tout à fait d'accord, qu'il soit obligatoire ou non, tout à fait d'accord, mais surtout réfléchir aux contours d'une école mise au service de l'esprit critique, seule condition de l'émancipation. Pour cela, l'armée et la police doivent cesser tout entrisme dans l'institution scolaire. Pour cela, l'armée et la police doivent cesser leur entrisme dans l'institution scolaire et retrouver leur précaré qui n'est pas celui des enfants. Tout partenariat de ce type doit cesser. Plus encore, les contours d'une éducation à la citoyenneté doivent être redéfinis à l'aune d'un projet de société contraire au maintien de l'ordre social dominant. La gauche doit prendre à bras le corps la réflexion conjointe sur la société qu'elle entend bâtir et les valeurs à transmettre que ce projet sous-tend. Dès lors, il ne peut plus être question de former des petits soldats, mais des êtres à même de douter, de questionner et de débattre. Toute forme de dépassement de soi et d'affirmation de sa supériorité doit être remplacée par un apprentissage de la coopération et de l'égalité. Cela suppose une refonte totale des programmes scolaires en fonction de ces nouvelles exigences. Alors là, on verra plus tard justement comment Laurence de Kock s'intéresse beaucoup au programme de l'histoire. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Alors Laurence de Kock conclut, transversal, l'éducation à la citoyenneté doit mobiliser l'ensemble des disciplines scolaires pour mettre à l'épreuve les vertus émancipatrices des connaissances. Alors là aussi, l'émancipation, c'est un thème qui revient souvent dans les livres et les écrits de Laurence de Kock. Et elle conclut, ainsi l'école deviendra cet espace d'expérimentation sociale dépouillé du fanatisme sécuritaire de la Macronie.
Min fo wolo na bere uye e fanga ben kagegele Kelele sinyi ma fila farala Kelele bale ma fila farala Kelele sinyi ma fila farala Kelele bale ma fila farala
sunguru nuwe anga benga gegele nye kagegele anwolo nuwe kelele zinyima fila varala kelele balema fila varala
Vous venez d'entendre un morceau de musique de Fatoumata Diawara, chanteuse et comédienne malienne. Dans la première partie de notre émission, Laurence Decoq, historienne, nous a dit son opposition au SNU dans un texte que je vous ai lu et qu'elle a publié dans la revue Regards. Mais Laurence Decoq s'était exprimée déjà sur le site Café Pédagogique pour dire ce qu'elle pensait de la propagande pour le SNU de Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée du Service National Universel. Voici ce qu'elle écrivait. Sous le titre « Sarah El Haïry, la lingua vanitatis et le SNU », voici ce que l'historienne Laurence Decoq écrit. « Depuis qu'a fuité le projet de généralisation et obligation du SNU ». Bon, alors on sait depuis qu'il n'y aura pas d'obligation, ceci a été écrit il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, nous savons que ce ne sera pas forcément obligatoire. Alors je reprends, depuis qu'a fuité le projet de généralisation et obligation du SNU, sa farouche défenseuse Sarah El Haïry, ministre chargée de la jeunesse et du SNU, est sur tous les fronts pour en défendre l'utilité. C'est chaque fois l'occasion d'une démonstration magistrale de l'usage d'une langue à ce point déconnectée du sens des mots brassés qu'elle finit par ne rien dire, ou plus précisément par conduire un néant en lieu et place de pensée, ce qui n'est pas sans danger. Dans son livre intitulé « Personne ne sort les fusils », l'écrivaine Sandra Lucbert décrit une langue oppressive qu'elle qualifie de « LCN ». Lingua capitalisti neolibéralis, dont la dimension technique et managériale vise à camoufler la violence qu'elle exerce sur les individus. Sarah El Haïry franchit un cap dans l'aseptisation linguistique au point de convertir un exercice de ventriloque de vide, une proposition relant particulièrement délétère et dangereux pour la jeunesse, on parlera donc de langue du vide ou lingua vanitatis. Alors vous voyez que Laurence Decoq est assez sévère envers Sarah El Haïry. Et alors je saute bien sûr un paragraphe et je vais un petit peu plus loin sous le titre justement « Le fameuse lingua vanitatis, produit du déni ». J'ai l'habitude de dire que le SNU est le meilleur des trois mondes, ça c'est ce que dit Sarah El Haïry. L'éducation, l'engagement associatif et les corps en uniforme. Déclare la ministre dans l'Express du 21 juillet 2022. Hélas, l'habitude de dire ne fait pas la vérité. Le SNU tient surtout du monde des corps en uniforme. C'est d'ailleurs presque une obsession de la ministre qui ne tarit jamais assez d'éloges sur le monde militaire. On s'y croirait lorsque, main dans le dos et légèrement courbée, de bleu marine vêtue, elle passe en revue les recrues du SNU au garde à vous. Lorsqu'elle prétend, entre guillemets, renforcer la force morale de notre pays. Ça, c'est ce qu'elle avait dit dans un tweet du 2 mars. Lorsqu'elle tweete frénétiquement sur ses rencontres avec la force armée en Guyane pour le réveillon, on ne sait pas si c'est le meilleur des mondes, mais tout y est dégoulinant de guimauve. L'engagement des jeunes, la cohésion de la République, tandis que la Guyane est un territoire pour lequel le défenseur des droits et l'UNICEF s'alarmaient dans un rapport de juillet 2021 de l'état accablant des inégalités scolaires et de l'accès à l'éducation. L'un des attributs de la lingua vanitatis est de produire du déni. Ce fut particulièrement criant dans l'Assemblée nationale lorsque, interpellé le 1er mars 2023 par la députée LFI Clémence Guettet sur l'état des écoles, entre guillemets, qui craque dans le Val-de-Marne, Sarah El Haïry avait répondu ceci. « Malheureusement, vous avez tout peint en noir. Le Val-de-Marne, ce n'est pas ça. Appeler et dessiner une situation aussi catastrophique, c'est d'une certaine manière, en tout cas, ne pas continuer à construire de l'espoir. Alors voilà ce que disait justement Sarah El Haïry en réponse à la députée qui lui posait une question. Et Laurence Decoq continue. Ainsi va la Macronie, le regard illuminé, les œillères bien accrochées, et pour seule réponse aux problèmes sociaux, le moulinage, main à l'appui de formules creuses et hors sol. Sarah El Haïry veut, alors entre guillemets, reconquérir les cœurs de notre jeunesse. Cette jeunesse qui a pris de plein fouet la crise du Covid, qui grossit les rangs des services de psychiatrie, qui craque et des réseaux solidaires de distribution alimentaire, mais à laquelle la ministre a seulement envie de dire, entre guillemets, tout présent n'est pas comme les autres, par contre, tu peux provoquer d'autres choses, ce qu'elle avait déclaré d'ailleurs sur France Inter dans une émission du 14 octobre 2020. C'est dans cet univers réactionnaire, autoritaire et aveugle aux réalités sociales que doit être replacé le SNU, dans lequel il n'y a rien de bon à prendre, contrairement à ce qu'ont pu croire quelques organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui ont pu se sentir flattées par le regain d'intérêt. Le SNU sert un projet dévastateur de mise au pas de la jeunesse, dont on craint la légitime colère. Les enrobages vertueux, entre guillemets, de mixité sociale ou, entre guillemets encore, d'émancipation, n'en sont pas le cache-sexe. Gouffre financier de surcoût, le SNU prospère sur le déni du massacre en cours de l'école publique. Une seule chose doit être demandée au gouvernement, rendre l'argent qu'il a... Vous avez compris, d'après les textes de Laurence Decoq que je vous ai lus, que l'historienne est une ardente défenseuse de l'école publique. Dans cette école publique, Laurence Decoq a pour principal objectif de favoriser l'émancipation des jeunes. Et c'est l'idée qu'elle défend dans un de ses derniers livres, publié en 2021 aux éditions Argonne, et qui a pour titre « École publique et émancipation sociale ». Laurence Decoq nous présente son livre.
Donc, dans mon livre « École publique et émancipation sociale », j'ai voulu faire plusieurs choses. D'abord, un point sur l'état des lieux, une sorte d'état des lieux sur là où on en est aujourd'hui de l'école publique, au regard d'une double actualité, celle de l'urgence, avec notamment la crise sanitaire Covid et comment est-ce que cette crise sanitaire a révélé les défaillances d'une école. Comment elle a révélé les crises aussi d'une école, des choses qui étaient déjà là, mais qui ont été vraiment révélées au sens presque chimique du terme par cette crise sanitaire. Une actualité un petit peu plus longue qui est comment tout ça s'explique depuis 4 ans, notamment donc depuis le dernier ministère avec les dernières réformes éducatives de Jean-Michel Blanquer qui, de mon point de vue, relèvent de ce que je qualifie dans le livre de contre-démocratisation scolaire. C'est-à-dire une politique assumée, systématique, de la maternelle à l'université qui assigne aux enfants et aux adolescents une sorte de place sociale en fonction de leur appartenance sociale et qui du coup abandonne la perspective de démocratisation sociale. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que j'ai voulu, après ce diagnostic un petit peu alarmant et alarmiste, réinterroger ce que l'on appelle l'école publique et son articulation avec l'émancipation sociale. Réinterroger ça historiquement, parce que c'est ma formation quand même d'historienne, donc je revisite l'histoire de l'école publique depuis, on va dire, la Révolution française, et une histoire qui vise à montrer comment cette école publique a été conçue malgré des couacs, hein, évidemment, donc avec des avancées, des reculs, des ratés, des réussites, comment cette école a quand même été conçue dans une perspective d'émancipation sociale, à savoir une perspective de justice sociale, une perspective de possibilité donnée au plus grand nombre, et en particulier aux enfants les plus défavorisés, d'accomplir une trajectoire scolaire qui soit la trajectoire scolaire, on va dire, de leur choix, ou une trajectoire scolaire qui leur permette de quitter un petit peu leur milieu social. J'interroge un peu tout ça, c'est-à-dire que comment, à travers l'histoire de l'école de la République, se sont posées ces questions, comment elles ont tenté d'être résolues, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et où on en est aujourd'hui, et pourquoi je considère qu'aujourd'hui, il y a un abandon de cette boussole, ce que j'appelle la boussole, c'est-à-dire la boussole de la démocratisation scolaire. Dans ce livre, il y a une grosse partie historique aussi, je reviens sur quelque chose qui est assez méconnu, qui est l'histoire de l'éducation nouvelle, parce que je considère que ce mouvement d'éducation nouvelle, donc un mouvement très composite, très pluriel, qui est né après la Première Guerre mondiale, ce mouvement doit être aussi pris dans l'histoire de l'école et dans l'histoire de l'école républicaine, parce que c'est aussi un mouvement qui a contribué à la fois à faire émerger des modèles alternatifs hors école républicaine, mais aussi qui a contribué à interroger l'école républicaine dans ses fondements, et notamment au regard de son incapacité à accomplir la démocratisation scolaire. Donc j'interroge cette éducation nouvelle à travers son histoire, à travers des figures, à travers des clivages qui la traversent, et je montre que l'un des clivages, c'est cette question de la politisation de l'école, au sens d'une école qui aurait une fonction qui serait celle de la transformation sociale, quelque chose qui est assumé par certaines figures emblématiques de l'éducation nouvelle, comme Célestin Freinet, comme d'autres, quelque chose qui est au contraire récusé par d'autres figures, comme Maria Montessori, par exemple. Donc, voilà, ça c'est une grosse partie de l'ouvrage. Et puis, je termine ce livre en posant la question que tout le monde se pose, à savoir que faire après ce diagnostic un petit peu alarmant, après ce retour historique. Qu'est-ce qu'on peut au fond puiser justement dans cet arsenal de connaissances historiques pour essayer de refonder une école qui au moins recalibre la boussole vers une optique de démocratisation et de justice sociale, et puis pourquoi pas, on peut toujours rêver, réussisse à accomplir cette mission de justice sociale et d'émancipation sociale. Alors je ne vais pas spoiler la fin de ce livre, qui est évidemment capital, car je donne toutes les solutions pour y arriver, mais pour ça il faut évidemment l'acheter.
Alors, sur les conseils de Laurence Decoq, j'ai acheté le livre « École publique et émancipation sociale » et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Parmi les solutions proposées par Laurence Decoq pour relancer l'émancipation sociale à l'école, il faudrait repolitiser l'école par la gauche. Ça veut dire, si aujourd'hui la liberté pédagogique est limitée par des programmes surchargés, si les enseignants sont méprisés et obligés de subir des conditions de travail dégradées, si la situation des universités est catastrophique et conduit parfois des étudiants jusqu'au suicide, il n'y a qu'une solution, dit Laurence Decoq, résister. Il faut résister en prenant la parole sur la réalité du métier d'enseignant, affirme-t-elle. Un pédagogue ne peut pas ignorer le monde dans lequel il vit et se désintéresser du monde qu'il souhaite voir émerger. Résister, c'est ce que font les enseignants qui s'opposent aujourd'hui au service national universel. Le communiqué de leur syndicat a été repris par le journal Politiste et a été ensuite largement diffusé dans la presse. Au moment où le gouvernement s'apprête à supprimer 12 jours d'enseignement des élèves de seconde dans les lycées, pour leur proposer un SNU, qui est un genre de colonie de vacances militarisée, les enseignants affirment leur franc refus du SNU et déclarent « Les élèves ont besoin d'école, pas de SNU ». Mais d'après Laurence Decoq, il ne s'agit pas de n'importe quelle école, mais d'une école qui émancipe les élèves. Elle précise d'ailleurs son idée dans l'émission matinale de la revue Regard, le 30 août 2021.
C'est sa vocation première à l'école, l'émancipation. C'est quoi ce que tu appelles l'émancipation sociale à l'école ?
Oui, ce qui me semblait surtout important, c'était de retrouver un des mots qui a été capturé, confisqué par la droite et notamment confisqué par le néolibéralisme. L'émancipation, c'est un mot de la gauche. Je veux dire, on peut leur en laisser quelques-uns, mais il y en a sur lesquels il faut se crisper un petit peu. Et on comprend bien pourquoi la droite libérale a pu le récupérer aussi facilement. C'est-à-dire que l'émancipation, si on ne la couple pas avec la dimension sociale, d'où le titre pour répondre à ta question, peut effectivement devenir simplement une description de la libre entreprise de soi. Donc je m'épanouis moi-même, je deviens le pionnier de ma propre existence et en concurrence avec d'autres, j'essaie de tirer d'être au-dessus des autres et de m'en sortir le mieux possible.
Il y a des gens pour lesquels le rôle de l'école, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on parle de réussite scolaire, on voit bien que derrière, il y a cette idée que l'école, elle est faite pour réussir. Comme si la réussite était quelque chose qui, comment dire, n'était pas socialement construit. La réussite, dans la droite libérale, c'est faire de l'argent, c'est avoir un métier qui rapporte, etc., etc. Moi, j'ai voulu rappeler quand même que le terme d'émancipation sociale, au départ, n'est pas lié ni à la question de réussite, ni à la question de la libre entreprise de soi. Elle est liée à la question de la désaliénation et à la question de la suppression des rapports de domination. L'émancipation sociale, d'abord, c'est pas quelque chose qui n'est qu'individuel, ça ne peut être que collectif, et c'est un projet de transformation sociale qui vise à en finir justement avec ces normes de réussite sociale qui sont socialement construites. Alors, est-ce que c'est la vocation initiale de l'école ? On va toujours préciser de l'école publique, parce que c'est important aussi dans le titre d'insister sur cette dimension publique, j'espère qu'on en reparlera. À mon sens, oui. À mon sens, oui, il y a dans l'école publique une vocation qui est à la fois la protection des plus humbles, d'où le caractère public, parce que ça ne peut passer que par une dimension publique. On peut l'appeler État, ou on peut inventer une autre collectivité publique, ça ne me dérange pas, mais ça ne peut passer que par le collectif, que par la redistribution. Donc c'est sa vocation première. Et la seconde vocation, à partir du moment où c'est une institution qui abrite des futures générations, eh bien, c'est de tendre vers une société meilleure. Et la société meilleure, elle passe, à mon sens, en tout cas, par la disparition des injustices. Et la disparition des injustices, elle passe par l'émancipation sociale.
Rosa, Rosa, Rosam, Rose, Rose, Rosa, Rose, Rose, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prosper qui sont la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur, qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens, parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rose arrosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine. Oh, ça. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades, qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, Rosie, cousine, oh. Rosa, y a Rosa, Rosa, y a Zarum, c'est le tango du temps des zéros. J'en avais tant, des mains, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des aurioles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines. Oh, Rosa, Rosa, Zam, Rose, Rose, Rosa, Rose, Rose, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis.
Vous avez compris en écoutant cette chanson de Jacques Brel que c'était un clin d'œil à l'école d'antan. Cette école que l'historienne Laurence de Kock souhaite voir évoluer. Mais dans l'évolution récente de cette école, la gauche n'a pas toujours joué un rôle positif.
Ce chapitre-là, que j'ai appelé, je crois, « La gauche contre l'école publique », c'est un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui est encore un des chapitres avec lequel je vais me faire beaucoup d'amis, mais il y a un moment où il faut qu'on se dise les choses. Il y a une responsabilité importante de deux types de gauche dans le sabotage de l'école publique. La première gauche, c'est la gauche effectivement chevènementiste, souverainiste, celle qui arrive au début des années 80.
Qui fait le redressement civique de...
Voilà. C'est une gauche, pour en revenir à la question précédente, qui elle aussi, à sa manière, va gommer la problématique des déterminismes sociaux en essayant de les fondre dans un grand tout souverainiste, républicain, laïcard, qui est censé en fait dépasser la question des inégalités sociales. Mmh. Et c'est donc une école qui, à travers ses politiques, à travers ses contenus d'enseignement, va, une école, je veux dire, des politiques éducatives, hein, celles qui vont être portées par Chevènement, va décréter que tout ce qui permet finalement une réconciliation nationale, et l'école va jouer ce rôle là-dedans, la réconciliation nationale est beaucoup plus importante que le fait de lutter contre les inégalités sociales. Et on est au début des années 80, à un moment où la question de l'immigration coloniale et postcoloniale commence à se poser politiquement avec beaucoup d'acuité. C'est le retour aussi de gros débats publics sur la question du racisme, sur la question des héritages de la colonisation. Et c'est des enfants dans des classes qui réclament d'une certaine manière une forme de reconnaissance de leur appartenance à ce pays dans lequel leurs parents, pour la plupart, sont arrivés. Et comment est-ce qu'on répond à ces questions-là ? Non pas d'une façon justement sociale, en disant ces enfants-là sont aussi des enfants qui sont issus des catégories populaires, il faut les penser comme des enfants issus des catégories populaires, en plus d'être des enfants immigrés. On y répond simplement en désignant leur caractère culturel, en disant ce sont des enfants étrangers, ils sont différents, subsumons ces différences, dépassons ces différences par l'idéal universel, l'idéal laïque, etc. Et ne pensons plus ces différences de façon sociale. Et c'est, alors c'est un peu compliqué de l'expliquer, mais c'est très important parce que finalement ça va servir une partie de la gauche. Alors tu as parlé de Chevènement, il y a Miner, il y a, je parle de Jean-Claude Michéa aussi, qui est une des figures emblématiques de la gauche libertaire. Ces gens en fait vont... assigner à l'école une mission qui est celle de diffuser des savoirs classiques hors sol, parce que finalement l'émancipation par le savoir va se faire de façon tout à fait naturellement. Et ils vont gommer la dimension sociale, c'est-à-dire la dimension de qu'ont montré toutes les sciences de l'éducation ou les sociologies de l'éducation depuis plus de 20 ans, à savoir qu'un enfant issu des catégories populaires n'apprend pas de la même façon qu'un enfant qui a déjà les codes scolaires depuis qu'il est né quasiment. Voilà. Et pourquoi est-ce que cette gauche fait mal à l'école ? Parce qu'en réalité, sous prétexte de lutter contre les inégalités, elle dit « il n'y a pas d'inégalité ». Parce que la République accueille tous ses enfants, il n'y a pas d'inégalité. Et s'il n'y a pas d'inégalité, offrons-leur tout de suite ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire une culture classique qui est censée élever par magie le niveau de savoir de l'ensemble des enfants. On aimerait bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et puis là, je suis un petit peu longue, mais il y a une autre gauche qui a aussi sa part de responsabilité, mais on en parlera peut-être tout à l'heure.
Maintenant, je pense, parce qu'effectivement, il y a la gauche des penseurs, hein, de ceux qui ont pensé l'école, mais il y a aussi la gauche des parents d'élèves, finalement, qui ont choisi, pour certains d'entre eux, et tu les mets dans un bloc bourgeois de ces gens qui participent de la gentrification de certaines villes, et qui, méconnaissance sans doute de l'institution publique et l'école publique, mettent leurs enfants dans les écoles privées, alors des écoles privées parfois religieuses, mais des écoles privées aussi beaucoup en ce moment dans des écoles dites avec de nouvelles pédagogies alternatives qui font beaucoup de business en ce moment, en tout cas qui émergent de plus en plus, il y en a de plus en plus. Il y a vraiment ces stratégies d'évitement qui existent à gauche, et des stratégies d'évitement de l'institution publique, c'est conscientisé à gauche vraiment.
Alors, je commence cette partie avec un podcast qui est hyper intéressant, hein, d'une maman qui raconte ses affres, de famille cultivée, intellectuelle, qui connaît très bien justement toutes ces problématiques-là. C'est ça qui est intéressant, qui habite dans un quartier populaire et qui, au départ, se dit je mets mes enfants dans l'école publique du quartier, et puis qui finalement commence à se poser un certain nombre de questions, lit des études, voit bien que c'est les seuls blancs quasiment de la classe, et puis finit par, mais avec une énorme culpabilité, les changer d'école et quitter cette école qui était au fond encore un petit peu un dernier résidu de possibilité de mixité sociale. Elle raconte très très bien ses affres, et c'est intéressant, et je ne dis pas du tout ça en me moquant. C'est intéressant, et c'est ça qu'il faut absolument interroger. C'est-à-dire que beaucoup de familles bourgeoises cultivées, qui est un peu nos catégories sociales à nous, hein, constatent et ont raison d'ailleurs de constater qu'il y a des dysfonctionnements majeurs aujourd'hui dans le fonctionnement de l'école publique. Hein, parce que ce livre, il dit pas « tout va bien, laissons tout en place, ne changeons rien, c'est génial, etc. » Il y a des dysfonctionnements majeurs. Et leur réponse... qui pourrait être de faire en sorte de militer pour que cessent ces dysfonctionnements. C'est ça que je dis. Leur réponse est de dire, ben, y a des dysfonctionnements majeurs, donc sauvons ma progéniture d'abord et avant tout, et ensuite on verra ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a, il faut le dire aussi, une généralisation d'un idéal quête du bonheur, de justement d'un idéal très néolibéral, hein, y compris dans la bourgeoisie intellectuelle cultivée qui continue à se croire de gauche, et qui fabrique du désir de ce que j'appelle dans le livre le néolibéralisme désirable, quoi. Mmh. C'est-à-dire que au fond, si je mets mes enfants dès tout petits dans des lieux où ils apprendront à connaître les arbres, dans les lieux où ils apprendront à cultiver des carottes, dans des lieux où on accompagnera leur rythme de développement, où il n'y aura pas toute cette espèce de sauvagerie, de violence, de l'urbanisme dévorant, etc. Eh bien, non seulement mes enfants iront bien, mais, pense-t-il, je contribue à fabriquer une nouvelle société. Mmh. Voilà. Et là, ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Alors, ça ne va pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je le dis aussi dans le livre, ces parents-là souvent mettent leurs enfants à l'âge de 3 ans dans ce type d'école. Or, je suis désolée, je disais tout à l'heure que l'école publique dysfonctionne en France, mais pas l'école maternelle. L'école maternelle, c'est un endroit où, au contraire, je crois que si vraiment il y a de la mixité sociale, si vraiment il y a des logiques d'inventivité pédagogique, de créativité pédagogique, de soucis d'accompagnement des enfants, y compris des enfants les plus démunis, et d'expérimentation, de coexistence pacifique entre différentes catégories d'enfants, c'est la maternelle. Donc, il n'y a pas d'excuse. Mettre ses enfants dès l'âge de 3 ans dans une école alternative hors contrat, il n'y a pas d'excuse autre que chercher le confort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un problème politique dont il faut qu'on débatte à gauche, la deuxième chose, c'est que fuir l'État pour créer de l'alternative en disant « je contribue à fabriquer un autre projet de société », c'est une décision politique lourde, et d'autant plus lourde qu'elle va complètement dans le sens, si on ne fait pas attention, des néolibéraux qui détruisent l'ensemble des services publics. Voilà. Donc ça ne peut pas se faire comme ça, parce que biodynamie, parce que parce que je vais rompre avec la civilisation, parce que finalement c'est ça l'avenir de l'humanité. La question qui se pose, c'est ton projet de société. Toi, tu peux le faire parce que soit tu es un héritier, soit tu es un rentier, soit tout simplement tu gagnes suffisamment d'argent, etc. Mais en quoi ta proposition peut aider l'ensemble des enfants qui en ont le plus besoin. Voilà. Et l'une des pistes pour moi de l'école publique, de refondation de l'école publique, c'est quand même la prise de conscience que nous sommes toutes et tous, hein, et vous et moi autant que d'autres, responsables des enfants qui ont le plus besoin de nous.
Tu plaides justement dans le livre pour un service public de la maternelle à l'université, sans pour autant d'ailleurs en finir avec les écoles privées. Mais peut-être plus important, tu décris comment la logique libérale a fait son entrée dans l'école avec son système de notation, de concurrence, de compétition, enfin de concurrence surtout entre les élèves mais aussi les établissements scolaires. Comment on en sort ça de cette logique libérale finalement ? On arrête les notes, c'est un débat qu'il faut avoir. On arrête de faire en sorte, comme là on l'a annoncé, visiblement les établissements scolaires pourront recruter eux-mêmes leurs enseignants. On arrête tout ça, c'est un débat qu'il faut ouvrir.
Alors d'abord, quand tu dis que je ne suis pas contre les écoles privées, je dirais les choses autrement. Je plaide vraiment ouvertement dans ce livre pour que cesse le financement public des écoles privées. Après, si les gens veulent ouvrir leurs écoles privées, c'est leur problème. Mmh. Mais que l'argent public, aujourd'hui, dans une telle situation de crise, continue à aller de façon aussi massive vers les écoles privées, me semble un scandale politique. Je crois qu'il faut, là aussi, il y a un moment où il faut dire les choses de façon radicale et arrêter de tortiller un petit peu des fesses en disant « oui, on va vous donner un petit peu, vous inquiétez pas ». Non, c'est un scandale politique, l'argent public n'a pas à financer les écoles privées, pas en ce moment en tout cas, où on a besoin de financement d'une école publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette espèce de vampirisation par les mots des services publics en général et donc de l'école en particulier, puisque c'est ça que je connais le mieux, ces mots du néolibéralisme, la façon dont ils nous atteignent, la façon dont ils nous dévorent, la façon dont ils tuent aussi, parce que je rappelle dans ce livre que Christine Renon, qui est donc cette directrice d'école qui s'est suicidée il y a 2 ans à Pantin, elle signe sa lettre de suicide dans son établissement, une directrice épuisée. Elle est épuisée. Elle est épuisée par toutes ces demandes incessantes de rentabilité. Et ce vocabulaire qui est soit un vocabulaire alors franchement assumé comme le vocabulaire marketing du type pilotage, gouvernance, etc. Ou alors ce vocabulaire camouflé du type bienveillance, agilité, ces espèces de trucs qui tout de suite devraient nous mettre la puce à l'oreille à partir du moment où il est question d'agilité, de bienveillance, etc. C'est qu'il va y avoir de la souffrance au travail. C'est qu'on est en train de nous vendre un truc qui va être insupportable, mais que on l'enrobe avec des mots qui sont des mots doux. C'est des mots doux pour enrober véritablement de la cruauté managériale. Donc, en finir déjà avec cette langue, retrouver une langue de l'école. C'est pour ça qu'on commençait cet entretien en parlant d'émancipation sociale et à quel point, oui, je marque bout sur cette défense de ce terme, retrouver la langue, une langue politique de la transformation sociale. Ça, c'est une première chose, la langue. Parce que la langue, elle a des effets. Je veux dire, il y a une dimension performative du langage. Donc, il faut absolument qu'on se batte là-dessus. D'autant que, petite parenthèse, du point de vue justement de la manipulation de la langue et de ce qu'on va appeler la com, le gouvernement est extrêmement fort. Je veux dire, ils ont une puissance d'action par la com qui est extrêmement efficace.
On va y revenir, oui.
Voilà. Et au sein même de l'école, alors d'autres... Plein d'autres l'ont pensé avant moi. D'abord, dans le passé, des pédagogues ont pensé ça. Je cite beaucoup dans le livre, parce que c'est un pédagogue sur lequel je suis en train de travailler en profondeur, mais je cite beaucoup Célestin Freinet dans le livre. Ce n'est pas le seul. On peut penser aussi à Ferrer, on peut penser à Paolo Freire, qui vient aussi d'être réédité là, chez Agone avec la pédagogie des opprimés. Tout un tas de pédagogues, et plus récemment, des gens comme le GRDS, le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, des sociologues de l'éducation, des Rochex, des Bonnery, etc. Plein de gens pensent justement une école qui en finisse avec cette dimension concurrentielle à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire au fond ce système de reproduction de la société libérale à l'intérieur même des classes. En finir avec les notes, c'est une hypothèse, c'est une proposition, elle me semble absolument fondamentale. Voilà. En finir avec le culte de l'évaluation, c'est aussi une autre proposition qui me semble fondamentale. Mettre en place des dispositifs pédagogiques qui à la fois soient explicites, parce que les enfants des catégories populaires ont besoin d'avoir des codes pour comprendre ce que c'est un apprentissage scolaire. Donc mettre en place des dispositifs pédagogiques qui soient à la fois explicites, mais qui continuent malgré tout de penser l'interaction entre les enfants, qui continuent de penser aussi des expérimentations sociales, plutôt de pratiquer des expérimentations sociales. Tout ça doit être noué ensemble, doit être tissé ensemble. C'est aussi, j'en parle aussi un petit peu, une réflexion sur les établissements eux-mêmes, leur géographie. Hein, je pense par exemple à la ville de Grenoble, et ce n'est pas la seule, mais qui dégenre les cours de récréation. C'est hyper important, hein, cette façon justement de penser la fin des dominations, des stéréotypes de genre. Comment est-ce qu'on peut penser une forme, enfin, une logique d'ergonomie, hein, en quelque sorte, des établissements avec des logiques de non-domination, des logiques de suppression des dominations. Il y a plein de pistes possibles. Hein, j'en donne plein et surtout, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça. Et ce sont des gens qu'on n'entend pas.
C'est toujours l'école de 2 à 100 ans. On n'est qu'un enfant sur les bancs de la vie. C'est toujours l'école, toujours les leçons. La récréation, c'est quand tout est fini. Nos chagrins, nos espoirs, sur le tableau noir. Nos amours, nos amis, pour le mercredi. On est selon le temps paraît long, on attend la sortie. C'est toujours l'école, t'as beau être grand, tu n'es qu'un enfant que l'adulte a puni. Nos chagrins, nos espoirs, sur le tableau noir, nos amours, nos amis, pour le mercredi. Selon les heures, gendarmes ou voleurs, les premiers sont bons, les derniers le seront.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson ancienne des Compagnons de la Chanson qui chantait justement l'école. Cette école qui, par manque de moyens humains, est victime aujourd'hui de nombreux dysfonctionnements. Et c'est dans cette école en grande difficulté d'ailleurs que le gouvernement a prévu de faire entrer le SNU en prélevant son budget important, bien sûr, sur l'éducation nationale. Dans l'entretien dans la matinale de la revue Regard, l'historienne Laurence Decocq nous a dit son attachement à l'école publique et a parlé de quelques pédagogues qui l'ont inspiré, comme Célestin Freinet. Cette année, Laurence Decocq a été invitée à Liège par le Centre coopératif de recherche et de formation à la pédagogie Freinet, le CCRF, pour faire une conférence sur Célestin Freinet. Voici ce qu'elle dit du pédagogue.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en revanche, très rapidement, Célestin s'est politisé. Et il s'est politisé, notamment en entrant en guerre. Ça, c'est quelque chose que les historiens de la Première Guerre mondiale ont très largement montré, à quel point des jeunes appelés, hein, et surtout ceux de l'école normale, qui était aussi d'ailleurs un lieu de politisation. À l'école normale, c'est là où on faisait son cursus pour devenir instituteur. En entrant en guerre, donc, ils se politisent. Ils se politisent par le contact, ils se politisent par le refus d'être en guerre, ils se politisent par la contestation, etc. Et lorsqu'on lit les mémoires de la fille d'Élise et Célestin, donc Madeleine Freinet, eh bien, Madeleine est assez claire hein, sur la politisation de son père. Elle dit que toute sa pensée d'éducateur s'est construite par révolte contre ce que les nationalistes ont fait subir au peuple et aux soldats dans cette période étant la période de la Première Guerre mondiale. Il se politise tellement que dès le lendemain de la guerre, malgré sa blessure hein, à laquelle il survit, il écrit dans des revues qui sont des revues très engagées. Et en particulier, l'une des premières revues dans lesquelles il écrit, c'est une revue qui s'appelle École émancipée. C'est une revue syndicaliste révolutionnaire. Et déjà, dans cette revue, il y a tous les ingrédients hein, de ce qui va constituer la charpente politique de sa pensée. Et en particulier, cette idée hein, que cette jeunesse qui est sorti de la guerre, comme lui d'ailleurs, hein, eh bien, il faut tout faire pour qu'elle n'y rentre plus jamais. Hein. Et c'est donc aussi à ce moment-là que sa fibre pacifiste et antimilitariste se met en place. Il ne faut plus qu'elle y entre, et pour cela, l'école a sans doute son rôle à jouer, et c'est pour cela qu'il produit un certain nombre d'articles. Alors là, je vous ai mis juste un extrait, hein, mais il produit un certain nombre d'articles dans École émancipée. Il en produit aussi dans la revue Clarté, qui est la revue d'Henri Barbus, qui est aussi une revue très engagée d'après la Première Guerre mondiale et très engagée pacifiste. Élise aussi s'est politisée très tôt. D'ailleurs, sa fille, Madeleine, disait que Élise était plus révolutionnaire que son père. Et elle raconte une anecdote qui est que Élise, à table avec ses parents, en 1922, lorsque Lénine est mort, a pleuré. Pleurer sur la mort de Lénine, c'est quand même pas commun, hein, quand on est dans un petit village des Hautes-Alpes. Voilà. Donc, Élise, elle lit École émancipée, elle lit Clarté, et c'est par le biais de ses lectures engagées, qu'elle tombe presque amoureuse d'une plume. Alors là, je romance un peu, hein, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, elle se dit, je vais écrire à ce gars, parce que ce qu'il écrit, ça, c'est formidable. Donc, elle lui écrit des lettres, et leur relation commence comme cela, en fait. C'est une relation épistolaire, et puis un jour, ils se croisent sur les quais de la gare de Grenoble, et tout commence. Mais donc, c'est la rencontre entre un homme et une femme politisés, et pas un pasteur illuminé hein, et une femme en béate admiration devant son mari. Ceci étant dit, lorsque et Élise et Célestin commencent à enseigner, alors dans les archives, on a leur rapport d'inspection. C'est assez jubilatoire, hein, je vous avoue, d'avoir les rapports d'inspection de Élise et de Célestin Freinet. Hein, et alors, ils y sont tous. Et lorsqu'on lit les rapports d'inspection, alors là je n'ai mis que des extraits, hein, mais ce qui est très étonnant, c'est que les premières années d'enseignement, aussi bien dans le cas de Célestin que dans les cas d'Élise, on a des cours qui finalement sont des cours assez classiques. Hein. L'inspecteur, alors celui qui allait voir Célestin Freinet, c'était l'inspecteur Cause, c'est devenu mon copain lui, parce qu'à force de lire ses rapports d'inspection, il est très attachant, et donc il aimait beaucoup Célestin Freinet, et il aimait beaucoup aller dans ses classes et regarder ce qui se passe, et les rapports sont très élogieux. Alors, évidemment, c'est des rapports de débutants, donc c'est plutôt encourageant, on va dire, hein, plutôt encourageant que élogieux. Mais voilà, il dit, c'est pas trop émietté, il y a un programme mensuel, bon, qui est un peu chargé, c'est normal, tous les profs qui débutent veulent toujours en faire trop, mais il y a une préparation sérieuse, il y a une bonne discipline, elle n'est pas brusque, les enfants conservent leur spontanéité, là je vous mets juste un extrait, mais on a plein de choses comme ça sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, et c'est vraiment une classe tout à fait traditionnelle et une pratique pédagogique tout à fait traditionnelle. Dans le cas d'Élise, alors là, je pense que l'inspecteur est tombé amoureux d'elle, et donc il a des mots qui sont absolument, là, pour le coup, très élogieux. Hein. Il lui dit qu'elle est extraordinaire. Alors là, j'ai juste pris un passage, hein, mais en gros, il lui dit qu'elle est extraordinaire et que vraiment, même à la limite, hein, il se demande pourquoi elle est devenue institutrice, parce qu'elle avait la fibre pour devenir même une grande artiste. Et c'est d'ailleurs cet inspecteur qui va la pousser à aller faire un an d'école d'art à Paris. Bon, des débuts qui, vous voyez, sont des débuts de jeunes enseignants. Hein, on pourrait tout à fait les mettre dans cette catégorie d'une histoire du collectif d'instituteurs et d'institutrices après-guerre, des gens politisés, des gens à gauche, mais des gens qui ne sont pas dans la logique d'en découdre avec l'institution, de subvertir le système, etc. Hein. En revanche, une vraie réflexion sur l'école et une vraie réflexion sur ce qu'il serait possible de changer dans cette école. La date qui est un peu une date d'inflexion, hein, qui est une date importante, c'est l'entrée dans la classe de la fameuse presse, hein, donc de la fameuse imprimerie. C'est 1924. Alors, on peut le dater parce que à ce moment-là, Célestin et Élise décident de créer un petit bulletin de liaison qu'ils appellent l'imprimerie à l'école. Et ils sont tout contents de cette entrée d'une nouvelle technique dans les classes. Hein. Alors, cette technique, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas nouvelle. En réalité, comme on sait que Célestin Freinet était un grand lecteur, on suppose, mais ça je ne peux que le supposer, qu'il en a entendu parler dans sa lecture d'autres pédagogues qui l'ont précédé. Et en particulier, on sait que parmi les pédagogues, notamment de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, celui qui a utilisé l'imprimerie, c'est Paul Robin, hein, qui a été celui qui a dirigé l'orphelinat de Sampuy et qui a été aussi un compagnon de route de Ferdinand Buisson, donc quelqu'un qui a vraiment réfléchi à la pédagogie. On sait également, peut-être vous le savez, alors je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, hein, donc je fais comme si vous ne savez pas, hein, c'est le principe du pédagogue. On sait en tout cas, on dit en tout cas, et Célestin Freinet le disait lui-même, hein, que son livre de chevet, c'était le livre d'Adolphe Ferrière qui s'appelle « L'école active ». Donc c'est quelqu'un qui se tenait très très au courant, hein, des parutions pédagogiques et qui était pris aussi dans une mouvance, j'en parlerai tout à l'heure, qui est celle de l'éducation nouvelle. Donc, si vous voulez, son entrée de l'imprimerie dans la classe, c'est pas tellement le pasteur illuminé, hein, vous l'avez compris, mais c'est une volonté de tester, d'expérimenter, et le terme est très important, hein, de tester, d'expérimenter une technique qui avait déjà été expérimentée par d'autres avant lui. Et lorsqu'il fait entrer l'imprimerie dans la classe, il continue à être inspecté, parce qu'à cette époque-là, ils étaient inspectés souvent, je peux vous le dire. Hein. Et les inspecteurs trouvent ça formidable, trouvent ça super. Donc, ils regardent. Là, je vous ai mis encore une remarque d'un rapport d'inspection. On est en 1924. Alors, l'inspecteur, il raconte ce qui se passe. Donc, il a tenté une innovation. Il encourage ses élèves à imprimer les résumés. Célestin Freinet le faisait en classe avec l'inspecteur, devant l'inspecteur, pour lui montrer. Lui-même, d'ailleurs, il était très content. Et puis, la seule critique que l'inspecteur Kos fait, et qui va être une critique qui va revenir assez souvent, c'est que c'est chronophage, quand même. Hein. Tous ces petits enfants qui doivent aller déposer les lettres, se mettre d'accord sur le texte qu'il va falloir imprimer, et puis l'imprimer, etc. Alors, vous savez, ben, l'inspection, hein, elle aime bien que les choses soient faites en temps et en heure, hein, et donc c'est toujours ce stress que le programme ne soit pas terminé. Hein. Donc, la critique qui est faite, c'est que c'est chronophage. C'est pas une méchante critique. Hein. Donc, vous voyez que du point de vue de l'entente avec l'institution, 1924, on est plutôt dans de la coopération, on pourrait dire. En tout cas, on est dans du dialogue qui est assez fluide entre l'institution et Célestin Freinet lui-même. Alors, à partir du moment où ce bulletin, l'imprimerie à l'école, commence à être imprimé de façon plus régulière, et à ce moment-là, Célestin Freinet publie régulièrement dans son imprimerie à l'école. Alors, au début, c'est vraiment une feuille de chou, hein, recto verso. Et il raconte ses expériences d'imprimerie, de texte, etc. Et autour de lui commencent à s'agréger quelques instituteurs et institutrices. Donc, à partir de là, se met en place un collectif, hein, d'abord 5-6 personnes, et puis ensuite une dizaine, ça devient jamais énorme, hein, et qui, eux aussi, se procurent une presse. Alors, dans les premiers numéros, on voit, il dit, voilà, vous la procurez en faisant ci, en faisant ça, etc. Puis, racontent aussi leurs expériences, etc. Donc, ils se constituent, et c'est fondamental pour comprendre ce que l'on pourrait appeler la pédagogie freinée, ils se constituent un collectif. Il n'y a pas de pédagogie freinée sans collectif.
Laurence de Kock, dans cette conférence sur Célestin et Élise Freinée, nous a dépeint la personnalité du couple Freinée et également leur engagement dans l'enseignement. Je ne peux pas vous faire entendre toute la conférence, mais vous la trouverez sur YouTube et je vous conseille de l'écouter pour savoir comment le révolutionnaire Freinée a fait partie dans les années 1930 de l'éducation nouvelle, une éducation qui était contre l'endoctrinement des jeunes et qui avait pour devise « L'école doit servir la paix, pas la guerre ». L'école doit servir la paix, pas la guerre. On comprend que l'historienne Laurence de Kock, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'école, s'intéresse à Célestin Freinée, un pédagogue politique. Mais je voudrais aussi évoquer une autre figure de l'enseignement de l'histoire que Laurence de Kock a bien connue, il s'agit de Suzanne Citron. On peut lire la biographie de Suzanne Citron dans le dictionnaire Métron, où il est écrit qu'elle était une historienne très engagée dans la politique, spécialisée dans l'analyse du mythe national. Suzanne Citron cofonda en 2011 avec Laurence de Kock et bien d'autres historiennes et historiens le collectif L'Aggiornamento Histoire Géographie, un collectif destiné à renouveler l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et c'est en 2018, dans une émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, que Laurence de Kock a parlé de Suzanne Citron.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, après deux guerres mondiales, Vichy, la Shoah, la guerre d'Algérie, on veut toujours modeler l'imaginaire enfantin avec un récit de la nation conditionné par les codes épistémologiques, idéologiques, culturels du XIXe siècle. Et c'est l'enveloppe de la raison d'État qui a construit les histoires nationales sur l'exclusion des dominés, des vaincus, des autres.
Suzanne Citron, est-ce que tu peux évoquer un peu, d'abord vous avez une relation très intime, très amicale.
Mm-hmm. On s'est rencontrés en 2005-2006, c'est-à-dire au moment de la formation du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, le CVUH, qui était une association qui avait été créée par Noiriel, par exemple,
Gérard Noiriel,
Michel Rio-Sarcé, Nicolas Offenstadt, pour réfléchir aux instrumentalisations de l'histoire. Il se trouve que Suzanne Citron a adhéré à cette association, moi aussi. Moi, je connaissais Suzanne de nom parce qu'en tant qu'étudiante, j'avais baigné dans ses ouvrages, ce qui était assez rare d'ailleurs à l'époque, hein, parce que peu d'étudiants en avaient entendu parler. Et puis, je découvre qu'elle est sur la liste des adhérents et on se rencontre à quelques réunions, on sympathise et on commence à travailler ensemble quelques années plus tard, à vraiment travailler ensemble, je veux dire. On fonde un collectif qui s'appelle le collectif Aggiornamento Histoire Géographie, dont je reparlerai peut-être, je pense que... Quand tu évoquais, vous êtes plusieurs à travailler, c'est ce collectif-là. Ce collectif, il tire son nom d'un des premiers articles de fond de Suzanne, qui a été publié en 67, qui s'appelle « Pour l'aggiornamento de l'histoire et de la géographie ». Qui est un article dans lequel déjà elle fait un diagnostic assez assassin de l'enseignement de l'histoire et de la géographie à l'école. Donc c'est un peu pour lui rendre hommage aussi qu'on a donné ce nom-là au collectif. Et dans Aggiornamento, on bosse toutes les deux, mais comme des collègues et comme des amis. C'est-à-dire, on part en vacances ensemble, on s'engueule beaucoup. Et on fait des propositions, on réfléchit à des contre-propositions sur les programmes qui aillent dans le sens de ce qu'on défend, c'est-à-dire une histoire inclusive, une histoire dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître, et notamment les fameux enfants qui n'ont pas forcément une tête blonde ou une peau blanche, une histoire à plusieurs échelles et pas nationalo-centrée, et puis une histoire critique. Justement, exactement le contraire du roman national. Le roman national, c'est quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, c'est quelque chose auquel on doit consentir.
Qu'a été construit quand ce roman national ?
Alors, le roman national, c'est 19e. Hein.
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
Il y avait un roman qui était plutôt un roman royal, en fait.
Oui.
Les grandes chroniques de France, c'est le Moyen-Âge, par exemple. Il y avait des gens qui avaient l'habitude, et puis même avant les chroniques de France, il y avait des gens qui avaient l'habitude d'écrire des chroniques. Et généralement, c'était pour mettre en valeur un puissant.
C'est ça.
Dans l'éducation, c'est l'histoire sainte.
Voilà, voilà.
Pendant très longtemps, après, pour ceux qui allaient à l'école. Mais l'histoire sainte, on continue à l'enseigner jusqu'au 19e siècle dans les écoles.
C'est ça.
Le roman national, lorsqu'il arrive dans les écoles, il va se mouler, en fait, dans l'histoire sainte.
Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, il y a eu des modifications, améliorations.
Ouais. Alors, en fait, il y a vraiment une histoire du roman national à faire. Hein. Quand il entre dans l'école, ce qu'a fait Suzanne et ce qu'on continue. Bon, quand il entre dans l'école, ce qu'on connaît sous les noms, par exemple, du Petit Lavis. Tout le monde connaît le Petit Lavis, c'est vraiment le manuel scolaire utilisé, pas le seul d'ailleurs, mais c'est celui qu'on connaît, utilisé dans les écoles primaires. Alors là, on est, quelqu'un qui veut comprendre ce que c'est que le roman national, il va sur Gallica télécharger un Petit Lavis, il comprendra. Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois. Et puis c'est Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, etc., etc. Ça reste... je dirais presque inchangé dans l'école jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a l'introduction des pédagogies actives, il y a des programmes qui sont entièrement refondus dans les années 60. Après 68, on peut plus enseigner le roman national. Alors, on aurait eu tous les profs et même les élèves ados. Il y a donc les années 70, c'est des moments où on parle plus de roman national à l'école, puis ça revient. En fait, ça revient dans les années 80 et ça revient après que Alain Decaux fait une sorte de cri du cœur en une du Figaro magazine, et c'est une qui clame « On n'enseigne plus l'histoire à vos enfants ». Et c'est un scandale. C'est un scandale au point que Mitterrand s'en empare, au Conseil des ministres, il pique une crise, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec l'enseignement de l'histoire ?» etc. Et dans les années 80, il y a un vrai retour d'une discussion sur l'opportunité ou pas de remettre du roman national à l'école. Et c'est Chevènement qui décide de le faire, en fait. Chevènement est ministre en 85, et il réécrit, enfin c'est pas lui, mais bon, en tout cas il parraine, ou il est le ministre de tutelle plutôt, de ceux qui vont réécrire les programmes de primaire, qui sont des programmes qui en reviennent, pas exactement mais quand même pas mal, aux fondamentaux du roman national. D'accord. Et Mitterrand en fait même un argument électoral, c'est-à-dire c'est dans son programme en 81, c'est dans son programme électoral.
Ah, c'est le retour des Gaulois, c'est le retour...
Alors c'est pas aussi caricatural, mais en tout cas c'est le retour de la nation et de l'identité nationale.
Ah, ouais.
Voilà,
ah, oui,
c'est l'identité nationale.
Ouais.
C'est Chevènement. Ouais. Surtout pour le primaire, un peu moins pour le secondaire.
La règle de Troyes et le couronnement de Charlemagne en l'an 800 vont revenir à la mode dans les écoles françaises. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Éducation nationale, va mettre en œuvre dès la rentrée prochaine une réforme de l'école élémentaire qui ressemble à un retour à la tradition, puisqu'on retrouvera l'éducation civique et les quatre opérations.
Mais il n'y a pas retour à la tradition, sauf si vous voulez dire que apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est un retour à la tradition. Mais si c'est un retour à la tradition, c'est un bon retour à la tradition.
Et après, on va entrer dans une période qui est une période de tiraillement. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que le roman national, c'est un peu has-been quand même par rapport à la recherche historique. Et ce qu'on enseigne à l'école peut pas être totalement à ce point éloigné de ce qui se produit scientifiquement. Bon, ça, les gens le savent, et ceux qui écrivent les programmes le savent. Mais il y a un tiraillement entre des nouvelles questions qui vont entrer, des questions héritières du roman national qui restent, qui sont campées là. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de compromis, en fait, entre des questions complètement archaïques du type « le temps des rois », Saint-Louis, machin, et puis des questions beaucoup plus novatrices comme la France avant la France. La France avant la France, c'est une formule qui n'est pas une formule du roman national, par exemple.
François Fillon, l'un de vos objectifs, c'est de faire réécrire les programmes d'histoire pour qu'ils racontent ce que vous appelez
Un roman?
Non.
Ou un récit national? On vous écoute. On vous écoute.
Voilà.
On vous écoute.
Pas un roman.
Je demanderai à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire. Pourquoi les enfants chinois apprennent-ils par cœur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays pendant 3000 ans et expriment-ils leur fierté d'appartenir à une grande civilisation quand les jeunes Français ignorent des pans entiers de leur histoire ou, pire encore, apprennent à en avoir honte?
Et vous parlez bien du récit national ce jour-là à Sablé-sur-Sarthe. Fin de la repentance, valorisation des époques glorieuses de notre histoire. Et François Fillon, vous en prenez, je vous cite, aux idéologues et cette caste de pédagogues prétentieux qui rédigent les programmes. Ça tombe bien, vous en avez une en face de vous ce soir, puisque Laurence de Kock a été consultée lors de la rédaction des programmes d'histoire que vous critiquez aujourd'hui. Laurence de Kock, c'est à vous.
Je voudrais vous faire un petit cadeau.
Ça, c'est gentil.
Et celui-ci, vous avez le droit de le garder. C'est une réédition, aujourd'hui, 23 mars, d'un livre qui est paru pour la première fois en 1987, de Suzanne Citron, qui est la première historienne à avoir fait une déconstruction très méthodique du récit national. Elle en montre les ressorts, elle montre à quoi il a servi, elle montre comment il s'est construit. Cette historienne, on l'entend trop peu encore aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que vous lisiez.
Je vais le lire avec beaucoup d'attention.
Pour comprendre sa démarche, il faut peut-être évoquer en quelques mots quelques moments de sa vie, sa longue vie.
Elle est née dans une famille très bourgeoise. Elle avait son grand-père qui était président de la Cour d'appel de Paris. Voilà, c'était une famille qui habitait dans le 16e arrondissement, très bourgeoise, juif. Suzanne Grimbach, c'est Grimbach son nom. Puis de l'autre côté, c'est Dreyfus, mais c'est pas le même Dreyfus que. Et elle raconte en effet avoir grandi dans une double légitimité, en fait, même presque une double allégeance, une double déférence. La première, c'est celle de l'allégeance et la déférence à la République. Elle a une foi, une confiance de gamine dans la République qui est un truc absolument inouï. Elle va visiter, par exemple, l'expo coloniale en 31. Elle y va plusieurs fois. Elle est super contente. C'est la balade du dimanche. Enfin, la République peut pas être mauvaise.
Oui.
Et puis la deuxième idée, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, bon, qui prouve aussi que la République peut pas être mauvaise. C'est quand même la République a fini par trancher. Elle a mis du temps, mais elle a tranché pour la réhabilitation de Dreyfus. Et donc, elle peut pas être antisémite non plus. Donc, elle a cette espèce de confiance comme ça dans la République qui fait que quand en 40 la France capitule et Pétain prend les rênes, c'est vraiment, j'ai envie de le dire comme ça, elle le dit pas comme ça, mais je crois qu'on peut l'entendre comme ça, c'est une trahison, mais c'est le plus grand chagrin d'amour de sa vie, quoi. Et c'est un truc, elle a 18 ans, elle va basculer dans une colère vis-à-vis de cette République qui est énorme et qui restera chevillée au corps. C'est-à-dire que désormais, cette République, elle va passer sous vigilance avec Suzanne. Il est hors de question de lui laisser passer quoi que ce soit. En 42, elle va faire ses études à Lyon. Et là, elle raconte avoir assisté au cours de Henri Marou, qui est un grand historien et qui était un historien antiquisant et qui fait un cours sur l'histoire romaine. Et en fait, elle y entend, et on sait que c'est vrai d'ailleurs, elle y entend un appel à la résistance, un appel à la régénération de la démocratie. Et elle entre en résistance avec sa sœur Janine, elles ont un an d'écart, elle entre en résistance auprès de Marou dans les réseaux protestants, les réseaux chrétiens protestants. Elle se convertit avec Janine au protestantisme. Elle n'était pas du tout religieuse, hein. C'était vraiment les juifs complètement athées, naturalisés, etc. Elle n'était pas du tout religieuse, mais là, elle a une crise mystique. Là, elle écrit son premier article, qui est un article de résistante mystique, quoi. Et donc, elle fait quelques actes de résistance. Alors, elle était, comme souvent les femmes, elle faisait passer des messages, essentiellement. Elle passait des... voilà. Et puis, elle est arrêtée en 44. Elle est arrêtée et elle part, elle est convoitée vers Drancy, elle devait partir vers Auschwitz, quoi. Et en fait, elle est arrêtée quelques jours avant la libération des camps, donc elle s'arrête à Auschwitz. Elle part pas.
À Auschwitz,
non, elle s'arrête à Drancy. Oui. Elle s'arrête avant à Auschwitz. Elle part pas à Auschwitz. Alors évidemment, après, elle sort de la guerre avec ça, avec cette charge-là. Sa sœur dit qu'elle a pas souri pendant un an au sortir de la guerre. Et puis, ben, la vie reprend un peu son cours. Elle rencontre son mari, quand même, Pierre Citron. Elle passe l'agrégation d'histoire en 47 et elle devient prof. Et là, elle se met à comprendre que ce qu'elle a à enseigner, le roman national dont on parlait tout à l'heure, correspond pas avec à la réalité des choses, quoi. Et qu'elle a pas envie d'être dans l'emphase de la France compte tenu de ce qu'elle a traversé. Donc, elle commence déjà un gros travail critique qui est à la fois un travail de critique de contenu et un travail critique de méthode.
Oui, et tu oublies une séquence là-dedans, c'est l'Algérie, c'est la décolonisation.
Ah oui, donc pardon, ouais, bien sûr, donc elle découvre,
parce
bien sûr.
Ça la frappe beaucoup.
Bien sûr, ça la frappe énormément, donc guerre d'Algérie, là elle découvre que, je parlais de l'exposition coloniale, elle découvre que toute cette propagande de la mission civilisatrice...
République torture.
Voilà, là c'est le coup de grâce, puis en fait elle est restée en contact avec tous ces milieux chrétiens protestants, la revue Esprit, etc., et c'est eux qui vont les premier dénoncer la torture. Donc elle va tracter contre la torture aussi, elle va se mobiliser effectivement énormément pour dénoncer cette torture pendant la guerre d'Algérie. Oui, ça c'est aussi fondateur absolument.
Ensuite elle
parcours.
Va adhérer au PSU.
Oui, alors politiquement c'est un peu compliqué parce qu'elle va... Bon, alors sa conversion protestante ne dure pas très longtemps, hein. Rapidement, c'est fini. Mais elle va butiner, vers le marxisme, elle va butiner vers le maoïsme parce qu'elle fait un voyage en Chine, dont on a les carnets aussi, elle est complètement sous le charme, ça va pas durer longtemps. Et puis ouais, c'est PSU. PS, et elle devient maire adjointe de Daumont. Et en fait, elle milite au PS et puis elle quitte le PS en 84, au moment où elle trouve que Savary a capitulé comme un lâche, au moment de cette histoire du service public unifié, là où il s'agissait de réunir l'enseignement privé et l'enseignement public.
Oui, mais c'est aussi le tournant de la rigueur. 84.
Oui, mais elle, c'est pas ça, c'est la question de l'école, c'est pas la question de la rigueur. Et c'est la question de l'école, elle est absolument dégoûtée qu'il ait capitulé là-dessus et donc elle démissionne. Voilà. Et elle n'adhérera plus à aucun parti après.
Laurence de Kock nous a dit dans cette émission qu'elles étaient ses maîtres pour l'enseignement de l'histoire. Elle a cité le révolutionnaire Célestin Freinet, la résistante Suzanne Citron, mais il y en a bien d'autres que vous découvrirez en lisant les nombreux livres sur l'école de Laurence de Kock. Alors je vous conseille, pour les avoir lus, L'école, tout simplement, aux éditions Anna Mossa, et L'histoire comme émancipation aux éditions Agone. Laurence de Kock fait aussi des conférences que vous pourrez retrouver sur YouTube et nous pouvons affirmer qu'elle est une enseignante courageuse qui a pris position contre le SNU et qui le fait savoir. Nous espérons à l'Union pacifiste qu'elle pourra convaincre ses collègues des dangers du service national universel. Ce SNU qui introduit dans l'école une forme de roman national avec la paramilitaire du garde-à-vous, de la levée des couleurs et du chant de la Marseillaise. Alors, est-ce que nous ne serions pas vers un retour du roman national? Le SNU n'a pas sa place à l'école, et nous reprenons le slogan des syndicalistes enseignants, les élèves ont besoin d'école, pas de SNU. Alors, il me reste aussi, pour terminer cette émission, à remercier la revue Regard, le Centre coopératif de recherche et de formation à la pédagogie Freinet de Liège, et l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, auquel j'ai emprunté quelques interventions de Laurence de Kock. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Come suave destino la Betlem, come suave destino. E come songa fumo che ha stiffenest, come songa fumo che ha stiffenest, yous. E canta, 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 canta godambu. E canta, 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 canta Palestina, canta, canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina.
صباح فلسطين طل وفل وبشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني.
fusé sur le stasir. Comme son fusé sur le stasir. Comme son fusé sur. Io so la luna me schene culu. O so la luna me schene culu. O so li alu. E canta, canta, canta.
Ganni, ganni, ganni.
Andamo con tambù.
Ganni le l'horria.
Canta, canta. Canta Palestina.
Ganni le vittorio.
Canta, canta speranza.
Ganni le l'horria.
E che speranza canta.
Ganni le vittorio.
Risperate l'umore. Canta Palestina, canta le vittorio.
Ganni le falastino, ganni le vittorio. Ganni Enzo.
نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة
Palestina, per me, per te, per noi, per il mondo.
نحبك, نحب فيتوريو, نحب أن نغني للحياة.
ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم وأفرحك ونبقى لنبقى على الأرض السلام.
Sans tirer de plan sur la comète. Oui, mais n'empêche que dans une teuf, je préfère que l'on sache que celle qui valse bien là, c'est ma meuf. Ça évite que je me fâche. On se dit peut-être que c'est demain qu'on se lasse. Tu pars par mon et moi par vos. Mais il suffit d'un jour qui passe et tout redevient nouveau. Maintenant qu'on vit à la colle, on s'appelle plus de la journée. On se retrouve après l'école, jusqu'au petit déjeuner. Je l'aide à retaper sa maison, vu que c'est un peu aussi la mienne. On voit défiler les saisons, sans une promesse qui tienne. On n'a pas le sentiment de construire un vrai projet. Comme disent les éminents sociologues de l'Express. Je dis que c'est ma première histoire. Elle rigole pas dans sa moustache. Elle a quelques raisons de me croire. Puis elle a pas de moustache. Ma bonne amie a 3 enfants. Mais franchement c'est pas un problème, vu que moi aussi j'en ai autant. Puis qu'en plus ce sont les mêmes. C'est une histoire qui nous échappe. On fait rien pour, on fait rien contre. c'est pas le fruit d'un travail de sape, y'a pas de quoi en faire une chanson.
La 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 la.
Depuis maintenant 25 ans que ça dure, c'est peut-être autre chose qu'une passade. Est-ce qu'un jour on sera vraiment sûr que la suite ne sera qu'une glissade?
Bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte. Et il vantait devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, inayatère. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre. Autant d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire,
m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droit au cul quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Avec machine, moi machin, dit des choses, des machins, oh, pas grand chose, des trucs comme ça.